Pour mieux comprendre les circonstances qui ont entouré la rédaction du Zohar, nous allons nous pencher sur la biographie de Rabbi Moïse de Léon. Nous allons en effet essayer de rassembler tous les éléments épars que l'on peut retrouver concernant cette figure tout à fait centrale de la Kabbale médiévale. Nous savons que Rabbi Moïse de Léon est né aux alentours de l'année 1240 dans la ville de Léon, dans la province du même nom, qui faisait partie à l'époque du royaume de Castille. Il mourut en 1305 à Arevalo. Il est l'auteur d'un nombre important de traités et de commentaires kabbalistiques, mais son nom est surtout connu du grand public parce que lui a été attribué la majeure partie du Zohar, ouvrage qui se présente comme un texte ancien remontant à l'époque de Rabbi Simon ben Yochai, Tana qui vivait à la fin de l'Antiquité, fin du 1er siècle au début du 2e siècle. Moïse de Léon est l'auteur d'une masse de textes kabbalistiques importants, et à cette époque proliféraient dans la région où il vivait, c'est-à-dire la Castille et l'Aragon, d'autres kabbalistes, eux-mêmes auteurs d'un nombre d'ouvrages extrêmement importants. Rabbi Joseph Djikatilia, Rabbi Joseph de Hamadan, sont peut-être les deux figures les plus connues. Eux-mêmes ont été des écrivains prolixes et prolifiques. Les éléments biographiques qui concernent Rabbi Moïse de Léon sont en réalité très peu nombreux. Ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a un témoignage. C'est le seul, du reste, concernant ce kabbaliste. Témoignage extérieur. Il y a les propres propos que tient Rabbi Moïse de Léon dans ses écrits, quelques phrases ici et là, qui se rapportent à des éléments biographiques, en tout cas que l'on peut rapporter, par une étude critique et historique, à sa vie. Et il y a, de façon cette fois beaucoup plus indirecte, tout ce que l'on peut tirer de ses enseignements, de ses commentaires, de ses exégèses, des exposés doctrinaux qu'il fait dans ses ouvrages et qui peuvent se rapporter ou qu'une étude serrée permette d'entrevoir comme des éléments attestant tel ou tel fait, tel ou tel caractère qui se rapporte à leur auteur. Évidemment, cette troisième source, cette troisième série de sources est beaucoup plus difficile à exploiter comme recours et ressources biographiques. Rappelons évidemment que ce n'est pas le seul cas de kabbalistes dont on ne sait pratiquement rien ou très peu de choses. La plupart d'entre eux, en effet, et surtout les kabbalistes d'Espagne, sont des figures dont il ne nous est parvenu que le nom. Nous savons très peu de choses à leur sujet. Il n'existe ni biographie, ni archives, ni autobiographie. Les témoignages sont extrêmement rares. Et quand ils existent, ils sont parfois lacunaires. Il existe bien quelques notes, ici et là, dispersées dans des manuscrits, concernant les relations qu'un kabbaliste pouvait avoir avec un disciple. Mais ils ne sont pas toujours très crédibles, et il est permis de s'interroger sur la fiabilité de ces sources. Il reste qu'en ce qui concerne Rabbi Moïse ben Shem Tov de Léon, nous est parvenu un témoignage écrit par un kabbaliste contemporain, Rabbi Yitzhak d'Akko. Ce kabbaliste vivait à Acre, Saint-Jean d'Acre. C'était l'époque où cette ville avait été reconquise par les musulmans, après les croisades. Cette reconquête, en 1291, était aussi l'occasion d'une dévastation de la ville et de ses habitants, les habitants juifs en particulier, qui avaient été obligé de fuir la ville pour échapper au massacre qui s'est perpétué. Fuyant donc la Palestine et Saint-Jean d'Acre, Rabbi Isaac d'Akko s'en va en Castille, plus exactement à Navarra, dans l'Estel. Il y trouve un refuge. Ensuite, il se rend à Tolède. Ce kabbaliste nous a laissé un témoignage unique et très précieux, concernant sa quête. En Espagne, en effet, il se met en tête de trouver le véritable auteur, ou en tout cas la source, du Zohar. Le mieux est que je lise le texte qui nous a été transmis à la fois par Rabbi Isaac Dako dans la partie biographique qui a subsisté de son récit et le récit qui en est rapporté dans le Sefer Yochassin à Shalem, le livre des relations de parenté, le livre d'histoire, dans l'édition italienne. Le Sefer Yochassin a été publié à Londres et Édimbourg en 1857. Et à la page 88-89, on y retrouve le témoignage que l'on va lire. Notons que ce témoignage a été retiré des éditions ultérieures du livre du Sefer Yochassin. Après, en fait, ce livre avait été publié une première fois à Kushta, puis repris en 1892, mais les éditions ultérieures ont omis, et sans doute cela de façon délibérée, le témoignage relatif à la quête de Rabbi Yitzhak Dako. Je vais essayer de traduire le texte en question. Il alla, il s'agit bien sûr de Rabbi Yitzhak Dako, il alla en Espagne pour chercher comment a pu se trouver en son temps le livre du Zohar qu'avaient fait Rabbi Shimeon et Rabbi Eleazar son fils dans une grotte. C'est la légende, n'est-ce pas, j'ouvre une petite parenthèse, de la rédaction du Zohar dans une grotte lorsque Rabbi Shimon ben Yochai et son fils au 1er siècle fuyaient l'autorité romaine qui persécutait les rabbins. Le texte poursuit. Heureux ceux qui méritent d'atteindre sa vérité dans sa lumière, ils verront la lumière. Et il dit, à sa vérité, parce qu'il a été, ce livre, le Zohar, faussé, en partie. L'auteur qui l'a forgé l'avait faussé. Et il dit, Rabbi Isaac Dako, qu'il l'avait reçu, car ce qui en existe en langue araméenne, il convient de croire que ce sont les propos de Rabbi Shimeon. Est-ce que tu vois, en langue sainte, c'est-à-dire en hébreu, alors il faut croire que ce ne sont pas ses propos, mais seulement les discours du faussaire, parce que le véritable livre a été entièrement rédigé dans la langue Yerushalmi, c'est-à-dire en araméen. Et voici ses propos. Donc voici les propos de Rabbi Yitzhak Dako. Parce que je me suis rendu compte que ces propos étaient merveilleux, qu'ils avaient été puisés à la source suprême, à la source qui s'épanche et qui ne reçoit rien, béni soit le nom de son règne glorieux, j'ai couru après elle et je suis parti en quête de ce livre et j'ai questionné les disciples dans lesquels ce livre se trouvait. Je leur ai demandé, d'où leur venaient les secrets merveilleux transmis de bouche à bouche, qui n'avaient pas été permis de rédiger jusqu'à présent, et qui se trouvaient dans ce livre, exprimés de façon explicite, adressés à tout lecteur. Mais je n'ai pas estimé correcte la réponse qui m'avait été faite à cette question. L'un répondait ceci, l'autre répondait cela. J'en ai entendu qui disaient que le maître fidèle, Ramban, c'est-à-dire Narmanide, de mémoire bénie, avait envoyé ce livre depuis la terre d'Israël, en Catalogne, à son fils. Et il l'avait rapporté et que l'esprit l'avait transporté dans le pays d'Aragon. D'autres disaient qu'il avait été apporté à Alicante et qu'il était tombé dans les mains du sage Rabbi Moïse de Léon, celui qu'on appelle Rabbi Moïse de Guadalajara. D'autres disaient que jamais Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, n'avait rédigé ce livre, mais que c'était Rabbi Moïse, ce Rabbi Moïse, qui connaissait un nom écrivain, Shema Kotev, et que, grâce à sa puissance magique, il l'avait rédigé, écrivant ces choses merveilleuses. Et afin d'en tirer un grand prix d'argent et d'or, de grande valeur, il a attribué ses paroles à un grand maître, en disant « Je copie ces choses du livre qu'a rédigé Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Eleazar son fils, ainsi que ses compagnons, et je le rédige pour vous. Quant à moi, je suis arrivé en Espagne, et je me suis rendu dans la ville de Valladolid, là où le roi réside, et j'y ai trouvé ce Rabbi Moïse. J'avais trouvé grâce à ses yeux, et je lui ai parlé, et il m'a juré alors que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela si ce livre ancien n'a pas été rédigé par Rabbi Shimon ben Yochai, ce livre qui se trouve aujourd'hui chez moi dans le pays où j'habite, c'est-à-dire Avila. Lorsque tu viendras chez moi là-bas, eh bien je te le montrerai. » Et il y eut après ces choses que nous nous sommes séparés. Ce Rabbi Moïse s'en alla vers la ville d'Arevalo, afin de retourner dans sa maison qui était à Avila. Mais il tomba malade à Arevalo et il y mourut. En entendant cette nouvelle, je me suis mis très en colère. Et je suis sorti et j'ai commencé à cheminer. En allant à Avila, j'y ai rencontré un très grand sage, un ancien, dont le nom était Rabbi David de Pancorbo. Je lui ai plu et je lui ai fait l'adjuration suivante. « Est-ce que sont clairs pour toi les secrets du livre du Zohar, à propos duquel les hommes se disputent, l'un disant ceci, l'autre disant cela ? Et Rabbi Moïse lui-même m'a juré qu'il me le montrerait, mais il n'a pas pu accomplir son serment, puisqu'il est mort avant. Et je ne sais pas sur qui compter et ajouter foi au propos de qui. » Et il dit « Sache qu'en vérité, la chose est claire pour moi. Je n'ai aucun doute à son sujet. Jamais ce livre, le livre du Zohar, n'est venu entre les mains de ce Rabbi Moïse. Seulement, Rabbi Moïse était le possesseur d'un nom écrivain, d'un Shema Kotev, et par sa puissance, il a rédigé tout ce qu'il a rédigé dans ce livre-là. À présent, écoute-moi. De quelle façon la chose est devenue claire pour moi ? Sache que ce Rabbi Moïse était un très grand dépensier. Il dispersait sa fortune avec complaisance, si bien que, tel jour, sa maison était pleine d'or et d'argent que lui donnaient les riches qui comprenaient ses grands secrets qu'il leur donnait, écrits grâce au nom écrivain. Et le lendemain, il avait entièrement épuisé sa fortune, si bien que il devait quitter sa femme et sa fille, les laissant nus, demeurant dans la famine et dans la soif, dénués de tout et manquant de tout. Lorsque nous avons appris qu'il était mort dans la ville d'Arevalo, je me suis levé et je me suis rendu vers le grand homme riche qui était dans cette ville, homme appelé Rabbi Yosef de Avila, et je lui ai dit « Maintenant est venu le temps où tu as mérité d'obtenir le livre du Zohar que l'argent ou l'or ne peuvent t'acheter. Si tu fais ceci, écoutant mon conseil. Quant à ce conseil, le voici. Appelle, toi, Rabbi Yosef, ta femme, et dis-lui, prends un beau cadeau, remets-le à ta servante, et envoie-la, entre ses mains, à la femme de Rabbi Moïse. Agit ainsi. » Elle agit ainsi. Et le lendemain, il lui dit encore, « Va, s'il te plaît, rends-toi dans la maison de la femme de Rabbi Moïse et dis-lui, « Sache que je désirerais que ta fille épouse mon fils. Quant à toi, tu ne manqueras jamais de pain, ni de vêtements pour t'habiller tous les jours de ta vie. Et je ne te demande rien du tout, si ce n'est le livre du Zohar que ton mari copiait et dont il donnait des copies à des gens. Dis-lui seulement ces choses-là, à elle et à sa fille, et écoute la réponse qu'ils te feront, et nous verrons s'ils sont disposés ou pas. » Elle alla et agit ainsi. Voici ce que la femme de Rabbi Moïse répondit. Elle jura à la femme de Rabbi Yosef ce qui suit. « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si jamais ce livre était avec mon mari. » Mais c'est de lui-même et de son propre cœur, de sa propre connaissance et de son propre cerveau qu'il l'a rédigé en totalité. Je disais à mon époux, en le voyant écrit, en n'ayant rien devant lui dont il put copier le contenu, « Pourquoi dis-tu que tu copies d'un livre ce que tu es en train d'écrire ? Or, il n'y a aucun livre, c'est seulement de ta tête que tu écris. N'est-il pas mieux pour toi de dire que c'est de ton intelligence que tu rédiges, et ce serait plus d'honneur pour toi ? Or, il me répondit ceci. S'il savait ce secret, à savoir que c'est de ma propre intelligence que j'écris, nul ne s'intéresserait à mes propos, et personne n'en donnerait ne serait-ce qu'un sou, car ils diront qu'il les invente de son propre cœur. Mais dès lors qu'ils apprennent que c'est du livre, du Zohar, qu'avait rédigé Rabbi Shimon ben Yochai, grâce à l'Esprit Saint, que c'est de ce livre que je copie les paroles que je leur transmets, alors ils les achètent avec des ducats précieux, comme tu le vois de toi-même. » Après quoi, la femme de ce Rabbi Yosef s'entretint avec la fille de Rabbi Moïse à propos des paroles que sa mère lui avait dites, à savoir qu'elle pourrait épouser son fils et qu'elle donnerait à sa mère du pain et des vêtements. Cette fille lui répondit, lui disant exactement la même chose que sa mère avait dite, ni plus ni moins. « Voudrais-tu un témoignage plus clair que celui-là ? » Lorsque j'entendis ces paroles, j'en fus très bouleversé. Et je crus alors qu'il n'y avait pas de livre, mais que c'est seulement grâce au nom écrivain, au Shema Kotev, qu'il rédigeait ses écrits et qu'il les donnait ensuite aux hommes. Je quittai Avila et je me rendis vers la ville de Talavera. J'y trouvai un grand sage, très extraordinaire, au cœur généreux et très sympathique, dont le nom était Rabbi Joseph Alevi, fils de Rabbi Todros, le kabbaliste, et je m'enquis auprès de lui des circonstances qui entouraient ce livre. Il me répondit en me disant ceci. « Sache et crois que le livre du Zohar qu'a écrit Rabbi Shimon ben Yochai était entre les mains de Rabbi Moïse, et que c'est à partir de lui qu'il a fait des copies, et qu'il en a donné à ce qu'il trouvait bon à ses yeux. À présent, observe la mise à l'épreuve que j'ai fait passer à Rabbi Moïse, pour savoir si c'est à partir d'un livre ancien qu'il copiait le Zohar, ou c'est par la puissance du nom écrivain qu'il le rédigeait. Je lui ai fait passer l'examen suivant. Longtemps après qu'il avait écrit pour moi de grands et nombreux cahiers du Zohar, j'ai caché un de ses cahiers, et je lui ai dit que je l'avais perdu, et je l'ai supplié de m'en copier encore une seconde fois. Et il me dit, « Montre-moi la suite du cahier qui est devant toi, et le début du cahier qui vient après, et je le copierai, comme ça il ne te manquera rien. Ce cahier sera pareil au premier que tu as perdu. » Et je fis ainsi. Quelques jours après, il me donna un cahier copié. Je l'ai comparé au premier que j'avais caché, et je me suis aperçu qu'il n'y avait entre eux strictement aucune différence, ni ajout, ni omission, ni changement quelconque, mais une même langue et une même parole, comme s'il avait été copié de cahier en cahier. Est-il possible qu'il y ait examen plus important que celui-ci et preuve plus forte que celle-là ? Ensuite, je quittai Talavera et je me rendis à Tolède. Je continuai encore à enquêter sur ce livre auprès des sages et des disciples, et je les trouvais encore partagés, l'un disant ceci, l'autre disant cela. Et lorsque je leur racontais ce qui concernait l'examen que le sage Rabbi Yosef avait fait passer à Rabbi Moïse. Ils me dirent que ce n'est pas là une preuve. Il nous est facile de dire qu'avant que quelqu'un donne un cahier qu'il a rédigé grâce à une puissance venant du non-écrivain, eh bien qu'il l'ait copié d'abord pour lui-même, et jamais il n'en avait été dépourvu. Mais il l'a copié et recopié, comme quelqu'un qui copie un livre d'un livre antérieur. Cependant, une chose nouvelle survint. On me dit que les disciples qui avaient vu un homme âgé dont le nom était Rabbi Yaakov, le disciple privilégié de ce Rabbi Moïse, qui était son ami et l'aimé de son âme, que ce disciple donc appelait à témoin le ciel et la terre, disant que ce livre du Zohar avait été rédigé par Rabbi Shimon ben Yochai. Le texte se termine par cette petite formule. Je n'ai pas trouvé dans l'ouvrage de complément. Le témoignage de l'épisode biographique que raconte Rabbi Isaac Dacre se termine ici brutalement. Il en manque certainement un morceau. Ce texte a été partiellement maintes fois cité par Scholem et par d'autres chercheurs. Il n'est pas nécessaire de rapporter le résultat de leurs analyses. Cependant, je crois qu'ils n'ont pas réussi à mettre en évidence un point qui me semble particulièrement important. De tous les témoignages contradictoires que Rabbi Isaac Dacre recueille lors de ses pérégrinations à travers la Castille, l'Aragon, il ressort un fait essentiel. Le témoignage de la femme de Rabbi Moïse de Lyon, ainsi que le témoignage de Rabbi Yosef Alevi, qui était un ami de Rabbi Moïse de Lyon, duquel il recueillait des copies du Zohar, ces deux témoignages sont d'une importance cruciale pour nous. Les propos de Rabbi Yosef Alevi nous apprennent que déjà, vivant de Rabbi Moïse de Lyon, le bruit courait qu'il rédigeait un livre, en l'occurrence le Zohar, à partir d'un schéma kotev, d'un non-écrivain, et que c'était pour vérifier cette rumeur que Rabbi Yosef Alevi a inventé cette épreuve, qui n'est pas très convaincante d'ailleurs, comme le texte le souligne avec raison, mais que le destinataire de ces cahiers, un des grands destinataires de ces cahiers, quelqu'un qui payait sans doute Rabbi Moïse de Léon pour qu'il lui copie des extraits, des passages du Zohar, que Joseph Alevi avait des doutes sur l'origine du livre que lui transmettait Rabbi Moïse de Léon. Il voulait avoir le fin mot de l'affaire, que des discussions, des polémiques, des disputes avaient déjà eu lieu en son temps sur l'origine du livre que ce Rabbi Moïse de Léon faisait circuler au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire au nom de la tradition, au nom de l'autorité rabbinique la plus sûre, la plus incontestable. Peut-être que ce Rabbi Yosef Alevi était un petit peu naïf, mais il n'avait pas une confiance absolument aveugle en ce Rabbi Moïse de Léon, puisqu'il lui fait passer une petite épreuve pour vérifier si le livre qu'il lui vend, qu'il lui copie, est bien d'origine ancienne. Rabbi Moïse de Léon sort vainqueur de cette petite épreuve, ce qui confirme aux yeux de Rabbi Yosef Alevi l'origine du Zohar, l'auteur étant à ses yeux Rabbi Shimon ben Yochai. Ce Rabbi Joseph Alevi ben Todros Aboulafia faisait partie de l'élite de la société juive espagnole, était le fils d'un des grands rabbins de la région. Il disposait d'une fortune appréciable. C'était à lui que Rabbi Moïse de Léon a dédicacé plusieurs de ses ouvrages écrit en hébreu. La figure de ce Rabbi Joseph Alevi nous donne une idée du public qui pouvait avoir été visé au départ par Rabbi Moïse de Léon. Il s'adressait à ces personnages qui, sans être des maîtres universellement reconnus, étaient considérés comme des grands sages et des érudits, des lettrés, qui n'exerçait pourtant pas d'autorité rabbinique communautaire. Rabbi Joseph Halevi était un kabbaliste, mais en même temps un riche héritier. Venons-en maintenant au témoignage de la femme de Rabbi Moïse de Léon, témoignage confirmé par sa propre fille. Une des choses qui frappe dans ce témoignage, c'est qu'elle est indignée en voyant Rabbi Moïse de Léon, son mari, attribuer un livre qu'il écrit de sa propre tête, comme elle dit, qu'il sort de lui-même et qu'il ne copie pas d'un ouvrage antérieur, persister néanmoins à attribuer ce livre à une autorité bien ancienne. Pourquoi, pense-t-elle, se départirait-il de la gloire qui lui reviendrait légitimement s'il avouait être l'auteur du livre qu'il est en train de rédiger? Eh bien, Rabbi Moïse lui fait la réponse attendue, à savoir que on n'estimerait pas beaucoup, en monnaie sonnante et trébuchante, un ouvrage qu'il aurait signé de sa plume. Il en a déjà eu sans doute l'expérience. Par contre, en l'attribuant à un maître ancien, alors le livre acquiert une très grande valeur. Et il accepte de perdre une partie de son prestige ou du bénéfice culturel, social, que lui vaudrait la reconnaissance d'un ouvrage comme le Zohar qu'il est en train de rédiger. Il accepte de perdre ce prestige pour des raisons très concrètes, pour obtenir davantage de dukkah qu'il n'en aurait eu. Autrement dit, pour bénéficier du plus fort droit d'auteur, il se retire lui-même en tant qu'auteur. S'il avouait être l'auteur du Zohar, dit Rabbi Moïse de Léon, eh ben on lui en donnerait pas beaucoup, parce que les gens diraient, ben c'est de son propre cœur, comme il dit, c'est-à-dire qu'il les invente de lui-même. Ce sont des inventions de Rabbi Moïse de Léon, et donc ils n'ont pas beaucoup de valeur. Cependant, en les attribuant à Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire à la tradition, alors le livre devient tout à fait différent. Il change de nature. Il n'est plus une invention, un caprice du cœur, voire une fiction, mais il rentre dans la catégorie des ouvrages qui font autorité, des ouvrages qui dominent un champ religieux et culturel. Comme si Rabbi Shimon ben Yochai était davantage proche de Dieu que Rabbi Moïse de Léon, qu'il avait accès à la vérité pure et parfaite, alors que Rabbi Moïse de Léon ne pouvait que qu'imaginer des choses ou les inventer. On voit bien ici, l'on sent bien, une sorte de tension entre l'ancien et le moderne, entre la tradition et l'invention. Mais pour que l'invention puisse faire recette, à la fois en tant que production culturelle valorisée comme œuvre et comme production culturelle valorisée dans sa traduction économique, financière, eh bien pour cela, il faut faire passer le nouveau, l'invention, pour la tradition, pour l'ancien. Par ce subterfuge, eh bien le nouveau prend de la valeur, se métamorphose en un pur produit de la tradition la plus authentique et la plus incontestable. Ce texte, le texte que l'on vient de lire, n'a pas seulement une valeur anecdotique ou historique. Il est extrêmement intéressant et je crois qu'il a une valeur universelle d'un point de vue sociologique, en tant qu'il nous montre comment une lutte entre une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de créer et un contenu nouveau peut trouver son dénouement par une ruse. Et l'auteur révolutionnaire, ou au moins réformiste, peut faire passer son message à travers l'habit de la tradition ancienne. Nous voyons avec quel acharnement Rabbi Isaac d'Acre essaie d'avoir le fin mot de l'histoire, de comprendre comment le Zohar a été écrit. D'ailleurs, la quête de Rabbi Isaac d'Acre a été continuée par des chercheurs jusqu'à nos jours, il faut bien le dire. Cet acharnement montre aussi la haute valeur dans laquelle le Zohar était tenu très peu de temps après sa rédaction. Il est temps maintenant de nous pencher vers le deuxième aspect que nous avons retenu, c'est-à-dire tout ce qui concerne le Shem HaKotev, le nom écrivain. Hormis l'épouse de Rabbi Moïse de Léon, et peut-être Rabbi Moïse de Léon lui-même si l'on en croit le témoignage de son épouse, nul ne songe à attribuer l'entière responsabilité de la rédaction du Zohar à Rabbi Moïse de Léon lui-même. Quoi qu'il en soit, pensent les uns et les autres, ce n'est pas Rabbi Moïse de Léon qui est l'auteur du Zohar. Soit pour les uns, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, que Moïse de Léon ne ferait que copier, soit pour les autres, il s'agit du Shem HaKotev, c'est-à-dire d'un nom divin qui avait ce pouvoir d'inspirer l'écriture, comme un ange qui dicterait à celui qui est l'occasion de sa révélation un enseignement. Ce serait donc par une espèce d'écriture automatique, par le moyen quasiment magique, cette forme de rédaction qui est sommairement décrite dans le passage en question, que le Zohar aurait été rédigé. Dans le pire des cas, si Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas l'auteur du Zohar, eh bien c'est une inspiration divine qui est à l'origine de l'ouvrage. Un contemporain comme les autres, un humble kabbaliste d'Espagne, de toute façon ne pouvait pas être tenu pour l'auteur d'une œuvre d'une aussi grande portée. Les esprits, les contemporains du Zohar, et on retrouvera cette chose par la suite tout au long des générations et même jusqu'à nos jours, ne peuvent accepter l'idée qu'un homme, comme tous les hommes, puisse être à l'origine d'une œuvre, d'un livre, d'une importance et d'une valeur aussi considérable. Ce refus de concéder à l'individu la capacité et l'honneur de la création littéraire et religieuse est une caractéristique de la plus haute importance. Il nous révèle à quel point le conservatisme religieux est acculé à ses propres limites, face à des circonstances particulières dont il ne peut se détourner. Pour des raisons diverses qu'il faudrait analyser plus longuement, et que l'on abordera peut-être un peu plus tard, le Zohar n'était pas tenu et ne pouvait pas être tenu pour un livre négligeable, ou pour un livre sans intérêt, ou pire encore, pour un ouvrage mensonger. Soit il entrait dans la grande chaîne de la tradition et était attribué à Rabbi Shimon ben Yochai, soit il était le produit d'une relation particulière et d'un usage particulier d'un Shem HaKotev, d'un nom écrivain, d'un nom magique capable d'inspirer ou de dicter à un auteur le texte qu'il rédige. La tendance des hommes religieux a toujours été de se considérer eux-mêmes comme des nains vis-à-vis de leurs ancêtres prestigieux, héroïques, qui étaient des géants. C'est une image d'ailleurs qui est souvent reprise, des nains qui se juchent sur les épaules de géants pour voir loin. En l'occurrence, les nains refusent, ne peuvent accepter ni admettre qu'un géant vive parmi eux, se trouve parmi eux, soit leur contemporain. Le recours à des figures du passé, comme celle de Rabbi Shimon ben Yochai, permet de nier le rôle et l'importance de l'individu au profit de la tradition. Car même si Rabbi Shimon ben Yochai était un individu en son temps, il est devenu la tradition. Il n'est plus un personnage historique déterminé, conditionné, dans un temps et dans une époque, dans un contexte donné, mais il est une figure éternelle. Il est la tradition telle que le judaïsme la considère comme faisant exister son histoire et son présent. Nous allons maintenant garder en mémoire le passage que nous venons de lire, extrait de l'ouvrage perdu de Rabbi Isaac Dacre, et le confronter ensuite avec d'autres éléments que nous arriverons à tirer avec peine des écrits même de Rabbi Moïse de Léon, qui, ici et là, nous a laissé quelques traces qui peuvent avoir un rapport avec sa propre biographie. Nous retiendrons cependant les points suivants. D'abord, les kabbalistes qui apparaissent dans cet ouvrage sont soit des figures errantes, pauvres. Rabbi Moïse de Léon est présenté comme quelqu'un de dépensier, d'imaginatif, de créatif. C'est aussi un travailleur acharné. Le public auquel le Zohar était d'abord destiné était constitué d'une élite sociale, mais d'une élite plutôt héritière que dominante, mais d'une élite sociale qui n'était pas en charge des affaires publiques, nous retiendrons aussi qu'il y avait un lien très fort entre les biens culturels et les biens économiques. Notons aussi qu'à côté de la croyance au merveilleux, qui semble très répandue, il y avait une certaine méfiance ou une certaine attitude critique vis-à-vis des affirmations des uns ou des autres, avec cette recherche de la vérité, qui était pas seulement donnée une fois pour toutes, mais qui nécessitait une enquête serrée, que la dispute concernant l'attribution du Zohar avait déjà commencé du vivant de Rabbi Moïse de Léon, que les opinions étaient très partagées à son sujet, qu'il y avait une forte distanciation, séparation entre les hommes et les femmes, puisque ce n'est pas la personne qui fait l'enquête qui s'adresse directement à la femme de Rabbi Moïse de Léon, mais qui l'envoie sa femme pour lui poser des questions, qu'il y avait donc un monde des femmes et un monde des hommes bien différencié, que néanmoins les femmes, les épouses, étaient les confidentes de leur mari, qu'elles connaissaient leurs plus intimes secrets, et qu'elles exerçaient certainement une forte influence sur eux, qu'une femme sans mari, qu'une veuve ou une orpheline était sans ressources, que les écrivains, les artistes, les créateurs dépendaient pour leur subsistance des largesses des personnes riches qui leur permettaient de continuer leur œuvre, qu'ils étaient acculés parfois d'employer la ruse pour pouvoir subvenir à leurs besoins et faire considérer par les autres que leur œuvre avait une valeur qui dépassait celle de l'invention, puisque ce qui comptait c'était la tradition, que Rabbi Moïse de Léon vivait essentiellement des copies qu'il faisait de ses propres écrits, peut-être aussi copiait-il d'autres livres, mais cela ne nous est pas dit explicitement. Rabbi Moïse de Léon ne capitalisait pas son argent. Il en avait un jour, il était ruiné le lendemain. Il vivait au jour le jour des subsides qui rentraient dans sa maison et qui avaient vite fait d'en sortir. Que Rabbi Moïse de Léon vivait de sa plume, c'est-à-dire de son enseignement. Et donc, le fait de multiplier les commentaires, d'ajouter des interprétations aux interprétations, permettait de multiplier les livres et de multiplier les ressources, que cette capacité qu'a la Torah de fournir ou de donner occasion à des interprétations en nombre infini, comme le dit explicitement Moïse de Léon dans un de ses ouvrages, son Sefer Harimon, le livre de la grenade, que cette ouverture infinie à l'interprétation est aussi une porte ouverte à l'œuvre d'art, à sa multiplication, donne aussi l'occasion à la créativité de s'exprimer pleinement, et donc, par conséquent, puisque la création artistique, la création littéraire, est également un moyen de subsistance, la multiplication des commentaires et des interprétations permet à cette subsistance de se poursuivre et de se maintenir, qui nous permet d'ailleurs, et cela par parenthèse, de considérer qu'on a trop vu toute l'exégèse juive médiévale, et même peut-être plus ancienne aussi, sous l'angle uniquement littéraire, sous l'angle esthétique, et que l'on n'a pas assez considéré les conséquences sociales, même économiques, de ces modes d'interprétation. Le fait d'accepter, même de considérer comme souhaitable, la multiplicité des approches, la multiplicité des interprétations et des facettes, voire même leur infinité, et le passage de la multiplicité reconnue déjà dans le Talmud à l'infinité affirmée par le Zohar et par Rabbi Moïse de Léon et repris par d'autres kabbalistes. Ce passage est intéressant d'un point de vue sociologique également, du point de vue de l'histoire sociale et de l'histoire économique de la transmission du savoir dans le judaïsme. Il ne suffit pas en effet de s'émerveiller devant cette capacité à produire des commentaires et des commentaires ou de les transmettre, de les faire accepter comme valable, bien que se déployant chacun dans un sens différent, et que disant autre chose à chaque fois sur un même texte, sur un même verset, voire sur un même mot, Il ne faut pas seulement s'émerveiller de cette caractéristique du commentaire juif, mais il faut aussi l'examiner du point de vue social, du profit que l'on peut tirer de cette forme d'interprétation. Ce n'est pas seulement d'ouverture intellectuelle, ce n'est pas seulement de questionnement infini, ce n'est pas seulement en termes philosophiques, poétiques, en termes esthétiques que l'on doit juger, que l'on doit apprécier cette caractéristique, mais il faut la mettre en relation avec les nécessités concrètes dans lesquelles les auteurs, les écrivains, les commentateurs étaient plongés, nécessités économiques, nécessités simplement de vivre et de survivre dans un monde parfois extrêmement difficile et hostile, nécessités qui, adossées à cette considération de l'infinité des possibilités d'interprétation, donnaient lieu à la rédaction toujours recommencée de nouveaux livres. Le Zohar en est un témoignage exemplaire, dans la mesure où, à l'intérieur même du livre, nous trouvons de multiples commentaires sur un même verset, et le Zohar n'a absolument pas la moindre hésitation à renouveler sans cesse ses propres dires, ses propres explications concernant un même passage, un même thème, une fête, une pratique religieuse, un texte biblique, ou tout simplement une croyance, croyance à l'au-delà, croyance à la résurrection, croyance à la métempsychose. Les kabbalistes, en reprenant à leur compte et en amplifiant encore cette idée qu'il n'y a pas de limite aux interprétations, qu'elles peuvent toujours et qu'elles doivent toujours être multipliées, enrichies, élargies, en reprenant cette idée à leur compte, ils se donnaient aussi les moyens de survivre. Non seulement de survivre au titre de la vie matérielle, mais également de survivre intellectuellement, de survivre comme producteur culturel, comme écrivain, comme créateur religieux, comme mystique. Dans la mesure où le monopole de la créativité religieuse, de la créativité littéraire, n'est pas réservé à un petit nombre de personnes, de dominants, désignés ou élus par leur père au sein d'une église, mais que cette capacité d'écrire est donnée à tout le monde, alors la lutte pour donner à ses propres écrits la meilleure chance de connaître le succès est, d'une part, de faire passer ses écrits comme étant la tradition, comme venant de la tradition avec un grand T, c'est-à-dire en les attribuant, par exemple, à un maître ancien, comme Rabbi Shimon ben Yochai dans le cadre du Zohar, mais ça pourrait être aussi à une autre figure ou à un personnage biblique. C'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie. C'était là un recours quasiment nécessaire, auquel les esprits les plus inventifs et dans la situation dans laquelle se trouvaient les kabbalistes, et en particulier Rabbi Moïse de Léon, ne pouvaient échapper. Il y a un déterminisme social, une logique de la réalité sociale, qui fait que, au sein du judaïsme, l'interprétation, le renouvellement et la multiplication des interprétations a connu le succès qu'il a eu. Moïse de Léon se sacrifie comme auteur afin de pouvoir être considéré comme le porteur, le transmetteur de la tradition et pour pouvoir en retirer les avantages qui en découlent. Les kabbalistes ont donc porté à son paroxysme cette croyance dans la multiplicité, voire l'infinité des commentaires de la Torah, non pas seulement pour des raisons doctrinales, mais également à cause des conditions sociales, concrètes et matérielles dans lesquelles ils évoluaient. On voit bien que les mystiques, et les mystiques juifs, en Espagne, dans cette Espagne du Nord qui était le berceau de la Kabbale, de la mystique juive, n'étaient pas des purs esprits, loin de là. Ce n'étaient pas des moines qui vivaient dans des compagnies d'hommes, isolés du reste du monde, mais ils avaient une famille qu'il leur fallait nourrir. Ils avaient donc des dépenses auxquelles il fallait faire face. Nous allons voir bientôt qu'ils caressaient aussi leur rêve d'être des médiateurs, des gens qui font passer un savoir, en l'occurrence savoir secret qui consiste dans la doctrine ésotérique de la Kabbale, de faire passer ce savoir auprès du plus grand nombre. Et pour ça, ils étaient prêts à employer des vecteurs qu'ils pouvaient choisir d'habiller sous la forme d'une tradition ancienne et mystérieuse. Comme si l'activité prophétique et les charismes qui lui sont liés devaient à cette époque-là, dans les circonstances de l'Espagne de la fin du XIIIe siècle, devait épouser une forme particulière, la forme de l'ésotérisme, pour pouvoir connaître le développement qu'il a connu, pour pouvoir avoir l'écho social qu'il a obtenu. Le paradoxe qui saute aux yeux, c'est que d'une part, Kabbalah veut dire réception, c'est-à-dire tradition. Autrement dit, un kabbaliste est quelqu'un qui copie, c'est-à-dire qui répète exactement ce qu'il a entendu, de la part de quelqu'un qui, à son tour, répète ce qu'il a entendu, et ainsi de suite, de génération en génération. D'une part, la Kabbale est une tradition, c'est-à-dire une exigence de fidélité à un enseignement fixe, et fixé depuis longtemps. D'autre part, elle est l'occasion d'une prolifération de commentaires, d'une multiplication d'interprétations, d'une créativité littéraire, religieuse, mystique, intellectuelle, illimitée, qui, bien entendu, échappe constamment à la fixité d'une tradition déterminée. Tout cela nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que vraiment une tradition, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de pleinement constitué qui se transmet de génération en génération? N'est-ce pas là plutôt une fiction? Une fiction sur laquelle peut être adossée la créativité. On le voit très bien avec l'exemple du Zohar. C'est sur le socle de la tradition, l'appui de la référence au grand maître ancien, Rabbi Shimon ben Yochai, maître en grande partie légendaire, en tout cas dans la vie et nimbé de légendes, hagiographique en grande partie. C'est adossé à cette figure de la tradition que la créativité la plus débridée peut se donner libre cours. Bien sûr, ce qui saute aux yeux aussi, c'est l'importance du livre. Du livre comme moyen pour une tradition de se renouveler et même de se transformer complètement. Ou, plus exactement, de céder la place à une parole nouvelle, contemporaine, moderne. Si le livre est un médiateur, il n'est pas seulement le médiateur de la tradition, il est aussi l'espace où se conjugue une fidélité affirmée avec une créativité réelle, effective. Rabbi Moïse de Léon ne gagnait pas sa vie ou n'avait pas un public important par des prêches, par des prédications, par des enseignements qu'il pouvait faire sous forme orale. C'est vraiment par le biais du livre, c'est-à-dire d'un moyen concret, matériel de transmission sur lequel s'inscrit un travail d'écriture, que son activité intellectuelle, littéraire, pouvait avoir un impact sur la société. Peut-être que j'essaierai de montrer une prochaine fois que c'est à partir du Zohar que le judaïsme devient véritablement une religion du livre, voire la religion du livre, beaucoup plus qu'avec la Bible ou le Talmud. Mais j'entends ici religion du livre au sens moderne auquel on peut donner au mot livre, au sens moderne du mot livre. Livre comme nouveauté, comme une nouvelle apparition d'une expression d'un auteur. Le Zohar doit une partie de son existence, à la lutte que les kabbalistes avaient engagée pour faire reconnaître leur activité d'écrivain comme ayant une valeur sociale, et donc une contrepartie économique, ou une contre-valeur économique. Les kabbalistes d'Espagne, de Castille, étaient des écrivains à plein temps, contrairement aux kabbalistes de Barcelone, catalans, comme Narmanide, par exemple, ou d'autres. Les kabbalistes de Castille n'étaient pas seulement des génies de la surproduction littéraire. Leurs œuvres, si nombreuses, ne sont pas le pur produit d'une activité fébrile d'écriture qui serait due simplement à une vague d'enthousiasme et d'effervescence religieuse inouïe, mais est aussi la conséquence de l'apparition, pour la première fois sans doute dans l'histoire juive, de la figure de l'écrivain, de l'auteur, comme personnage qui se consacre à plein temps à son activité littéraire, à son travail d'écriture. pour que cette activité soit reconnue par la société, il n'y avait pas d'autre moyen que de la faire considérer comme, par le biais que le Zohar a employé par exemple, de la faire considérer comme l'émanation de la tradition. La seule possibilité était sans doute de le mettre, cette activité littéraire, en position de production, ou plus exactement de reproduction de la tradition. Grâce à la notion de tradition, l'activité littéraire singulière d'un auteur, maître de ses choix, pouvait passer, être reconnue et acceptée dans la société juive du Moyen-Âge. On ne peut pas étudier l'histoire de la Kabbale, de la mystique juive en général, c'est vrai sans doute aussi d'autres formes de mystique, en faisant abstraction des conditions sociales économiques qui régnaient au moment où cette activité était produite. Bien des mystères ou des pseudo-mystères qui entourent la rédaction de certains ouvrages considérés comme des chefs-d'œuvre pourraient être éclairés, levés au moins partiellement, et dans une grande mesure, je crois, par une étude, une analyse de ces conditions, des déterminismes contextuels et sociaux qui président à la rédaction de ces œuvres. C'est pourquoi il n'y a pas d'écrit sans écrivain, ni d'écrivain sans public. Ce n'est pas un truisme, c'est une exigence pour l'étude même de ces œuvres, car le regard analytique, qui s'interroge seulement sur la valeur, les connexions, les textes entre eux, n'est qu'un regard partiel. C'est le regard esthétique. Il ne suffit pas. Le regard nécessaire doit tenir compte de toutes les composantes d'une œuvre, y compris de ces composantes qui n'apparaissent pas forcément, et même qui apparaissent rarement au premier plan, et qui sont les conditions concrètes de sa production. La Kabbale n'échappe pas à la règle, et le Zohar encore moins. On parle trop des mystères de la Kabbale, de ses prodiges, y compris les chercheurs, qui pourtant devraient avoir un rapport plus critique, se laissent trop facilement fasciner par le discours des kabbalistes, et n'ont pas assez conscience du monde concret dans lequel ils étaient plongés. Il faut en finir avec cette fascination souvent morbide, toujours esthétisante, envers les mystères, ce qu'on appelle les mystères de la Kabbale, ou les mystères du mysticisme, ou le mystère des religions, pour enfin se tourner vers ce qui constitue leur armature et leur structure, et comprendre les enjeux et les jeux qui s'y sont déroulés et qui en constituent la trame, depuis leur origine jusqu'à nos jours, en passant par toutes les étapes successives de leur formation. La connaissance véritable est à ce prix. En faire l'économie, c'est tourner le dos au réel. Or, le Zohar, est-il besoin de le dire, est un livre réel, écrit par des personnes réelles, à l'adresse de personnes réelles. Et cela implique un effort d'étude qui n'a jamais encore été véritablement accompli. Il ne faut pas se laisser submerger par la masse des écrits, pour oublier qu'ils sont l'œuvre de la sueur des hommes, car écrire est aussi un effort, un travail. Et comme tout travail, il a sa réalité sociale, ses conditions économiques, ses implications sociologiques. Reste bien sûr à valider cette approche point par point dans une étude serrée de l'ensemble des grands thèmes du contenu du Zohar.